Bélu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 16 janvier 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, on commence par une actualité de haute importance de la part de GM qui a dévoilé un paquet de trucs électriques, mais ça, c'est de l'information secondaire, parce qu'on veut surtout mettre l'emphase sur la nouvelle emblème du constructeur.
Oui, bien en fait, General Motors a changé son logo, son image de marque, qui était la même, soulignons-le, depuis 1964. Donc, de dépoussiérer ce vieux logo carré-là bleu pour le rajeunir par un nouveau logo carré bleu, c'est une excellente...
Avec des lettres minuscules au lieu de majuscules.
Avec des lettres minuscules, avec un bleu plus électrique, parce que visiblement, c'est la nouvelle tendance. Donc, nouvelle image de marque qui a fait réagir énormément sur Internet et pas nécessairement pour le mieux. Donc, certains appréciaient le logo traditionnel. Et se demandait si c'était vraiment pertinent de refaire ça et qu'est-ce que ça apportait. Pas grand-chose.
Il y en a qui ont donné de la job à du monde.
Oui, et il y en a qui l'ont reviré de tous les bords, de tous les côtés pour essayer d'y voir certains signes. Parce que si on le tasse de 90 degrés, ben on voit un E, le E pour électrique. Tout est possible.
Bon, un petit mot aussi pour mentionner que GM a dévoilé un fourgon électrique au CES, a dévoilé volant de la Bolt.
Oui, au CES virtuel.
Ouais, c'est ça.
Donc, une panoplie là, de dévoilement. Le fourgon, oui, c'est intéressant parce que c'est un énorme marché en Amérique du Nord, la livraison.
Et ça va rivaliser avec le e-transit de Ford. Là.
Oui, effectivement, mais c'est des images d'un véhicule là, construit à l'ordinateur. On n'a rien
vu. Ça semble quand même plus moderne qu'une Savannah.
Ben, c'est difficile de faire pire, on est d'accord, mais c'est vraiment un fourgon de livraison là, avec un step van, là, comme on dit, là, donc une coche de plus que le Savannah, et on nous dit là, 400 km d'autonomie, blablabla, donc c'est... C'est, mais j'ai l'impression que c'est pas demain qu'on va les voir.
On sent que t'es excité.
Non, absolument pas. Okay. Absolument pas.
Bon, un point qui est quand même intéressant, et là, écoute, on voyait des gens qui sont fanatiques de constructeurs américains, allemands, se taper dans les mains
hier. Oh, oui.
Parce que Toyota a prouvé qu'il n'était pas parfait. Ont reçu une amende, en fait, salée de la part du gouvernement américain pour une question d'émissions polluantes.
Oui, donc Toyota a accepté cette semaine de payer 180 millions de dollars aux États-Unis pour ne pas avoir respecté les règles sur la façon dont les groupes automobiles doivent rapporter aux autorités les problèmes liés aux émissions polluantes. Donc, c'est carrément une pénalité qui est accordée à ce constructeur-là. Et effectivement, là, on parlait du logo GM qui a fait jaser sur Internet, mais là, effectivement, ça aussi, les fanatiques des autres marques se sont payés la tête bien comme il faut de Toyota parce que Toyota produit des véhicules qui plaisent à beaucoup de gens et qui ont une réputation de fiabilité qui est difficile à accoter.
Mais Toyota qui se dit une entreprise verte avec des véhicules indestructibles, ben là, on a prouvé qu'il y avait quand même une petite...
On n'était pas parfait, là.
C'est ça, une petite maille dans la chaîne.
On n'était pas parfait, voilà. Donc, 180 millions de dollars, c'est un peu plus que si tu roules 121 sur l'autoroute.
Oui, voilà. Montréal qui a perdu près de 40 000 de population cette année se voit quand même dans un rang mondial des villes les plus congestionnées en 2020 au 195e rang. Et s'il y a de la congestion à Montréal, c'est pas parce qu'il y avait trop de monde cette année. Je pense que c'est parce qu'il y avait bien des cônes.
Oui, exactement. Donc les travaux, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la circulation à Montréal. Et là, on le voit ces jours-ci. La plupart des chantiers là, sont à arrêté. Donc, et il n'y en a pas de trafic, là. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Mais effectivement, c'est le fabricant des systèmes de navigation TomTom qui a accès visiblement à des données sur la circulation automobile, tu l'auras deviné, et a recensé là 416 villes et les a classées selon leur taux de congestion. Et Montréal, là, c'est ça, 195e. Donc, si on regarde les autres villes Amérique du Nord, ben Mexico est 29e. Donc, si on pense qu'il y a du trafic à Montréal, allez faire un tour à Mexico. Allez-y pas cette semaine. C'est pas très bien vu d'aller dans le sud. Ouais. Mais sinon, Vancouver est 52e. Los Angeles, hein, que j'aurais cru bien plus haut dans le palmarès, est au 85e rang. New York, 102e rang. Donc, voilà. Et une autre ville canadienne, Toronto, au 168e rang.
Et
donc,
la ville numéro 1 est...
La ville numéro 1, c'est Mumbai.
Mumbai, ouais. OK.
Donc, les pires, là, on a Mumbai, Bogota, Manille et Istanbul.
Oui, bon, alors...
En fait, le numéro 1, c'est Moscou et les quatre que je viens de te nommer sont les quatre suivantes. Donc, voilà.
Germain, on y reviendra un peu plus tard, mais aujourd'hui, ça serait le début du Salon d'auto de Montréal. Et d'ordinaire, on participait aussi en début d'année au Salon de l'auto de Détroit, qui avait été reporté l'année passée de janvier à juin.
C'était une stratégie que les organisateurs avaient lancée pour essayer de donner un souffle, là, tu sais, donc de dépoussiérer peut-être ce salon-là, de le décaler dans l'année en se disant ben, peut-être qu'on va avoir de plus grands dévoilements internationaux. Ouais. Non, bon, OK. Et ce qui est ironique, c'est que, bon, si on se replace l'année dernière, s'il avait eu lieu en janvier, comme il a toujours eu lieu, ben il aurait eu lieu, justement.
Oui,
alors là, il avait été reporté en juin. Donc, évidemment, il n'a pas eu lieu en raison de la pandémie.
Et cette année, ça devait être encore la même chose. Donc, juin 2021, c'était la date prévue pour le Salon de Détroit.
Et après ça, on nous a mentionné qu'il allait être décalé à l'automne. Évidemment, ça n'a pas eu lieu. Et là, cette semaine, on a carrément dit qu'il n'y aurait pas de Salon de l'auto de Détroit 2021. Donc, pas de plus tard à l'été, pas de l'automne prochain. Rien du tout. Rien.
Est-ce qu'on peut commencer à poser la question, va-t-il y avoir un retour pour le Salon de Détroit un jour? Parce que évidemment, on a l'impression, avec raison, que l'intérêt pour les salons automobiles, ça commence à battre de l'aile. Là.
Oui, visiblement. Puis les constructeurs se sont adaptés, ils n'ont pas eu le choix. Ils veulent dévoiler des nouveaux modèles, veulent présenter des améliorations sur d'autres. Donc, on n'attend pas les salons de l'auto pour ça. On fait ça en ligne et c'est ce qu'on a fait dans la dernière année, d'ailleurs. Donc, 2 ans sans le Salon de l'auto de Détroit, qui était déjà en période... qui était déjà en crise, qui était...
Mais ça sera aussi le cas pour New York. Ça sera aussi...
Ouais. Mais c'était peut-être des salons qui étaient dans une posture un peu plus enviable, mais oui...
Et Los Angeles, va falloir voir, parce que ce salon-là a lieu à l'automne. Alors, est-ce que pour 2021, ça pourrait avoir lieu?
Ouais.
Ça, c'est plus plausible que pour le Salon de New York qui aurait lieu quelque part au mois d'avril. Alors ça, on oublie ça tout de suite. Là.
Autre actualité d'importance, Antoine, t'as découvert une petite information qui n'a pas fait plaisir nécessairement à tout le monde cette semaine.
Non, en fait, ça a fait plaisir aux gens de Tesla.
Oui, à la moitié des gens,
bon,
c'est ça.
Et à tous les fanatiques de la marque Tesla, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Bref, alors, je reçois de la part de quelqu'un qui me suit sur mes réseaux sociaux, un communiqué qui a été envoyé au concessionnaire Ford à l'effet que la Ford Mustang Mach-E en version premium all-wheel drive ne serait plus éligible au crédit gouvernemental provincial de 8 000 $. Alors que c'est ce que Ford avait annoncé et c'est comme ça qu'on la commercialisait. Donc, c'est-à-dire que ce véhicule-là, étant une version premium à 4 roues motrices, on considérait que le 4 roues motrices était une option sur la version premium dont le prix d'entrée est à 58 550 $. Ça amenait le prix à 62 200 quelques $, mais malgré tout, parce que le rouage intégral était une option, on considérait que le véhicule était éligible. Mais voilà, coup de théâtre, la semaine passée, les concessionnaires Ford reçoivent un communiqué à l'effet que finalement, cette version-là ne serait plus éligible aux crédits gouvernementaux parce que son prix dépasse les 60 000 $ et qu'on ne peut pas considérer le rouage intégral comme une option, mais bien comme une version spécifique. Et moi, j'ai voulu fouiller un peu la chose parce que je ne pouvais pas concevoir que le fait qu'on ait dévoilé une Tesla modèle Y à deux roues motrices éligible aux crédits gouvernementaux le jour même où les concessionnaires Ford recevaient ce mémo-là soit un pur hasard.
Tu sais, il y a des coïncidences là,
qui se peuvent pas. Non. Alors moi, j'ai téléphoné aux gens de Ford pour me faire confirmer la nouvelle, ce qu'ils m'ont confirmé. Ensuite, j'ai décidé de téléphoner au ministère des Énergies et des Ressources naturelles pour en savoir un peu plus. Et c'est à ce moment qu'on m'a donné une partie de la réponse, c'est-à-dire, eux m'ont dit, le véhicule n'a jamais été éligible aux crédits gouvernementaux. C'est une interprétation de la part des gens de Ford.
Donc, Ford avait pris les devants en le publicisant de cette manière-là, en prenant pour acquis que le système à quatre roues motrices était considéré comme une option aux yeux du gouvernement.
Sauf que, sur le site du gouvernement, au moment où la nouvelle sortait, on indiquait toujours que les versions Select et Premium, sans mention d'un rouage intégral ou pas, étaient éligibles. Ce que ça voulait dire, autrement dit, c'est que une version Premium ou une version Select, c'est éligible, point final.
Ouais.
Donc, je donne raison aux gens de Ford à ce niveau-là, parce que il n'y avait pas de mention, de nuance d'apporter de la part du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui, à mon sens, était peut-être fautif là-dedans, bien que c'est vrai qu'il y avait une zone grise. Il y a quelque chose qui n'était pas clair dans tout cet énoncé-là. Mais qui a amené cette information-là ou qui a fait réaliser aux gens du ministère qu'il y avait une faille dans le système? C'est clairement, selon moi, les gens de Tesla, même si ça, les gens du ministère ne me l'ont pas confirmé. Non. Quoi qu'ils m'ont confirmé que c'était un tiers qui leur avait amené l'information la semaine passée. Donc, 1+1,
ouais,
à un moment donné...
c'est assez clair. Là.
Alors là,
ça peut pas être personne d'autre. Personne d'autre n'avait d'intérêt, finalement, de lever le drapeau.
Ben non, voilà. Alors évidemment, ce que ça a comme impact, c'est que là, on a une Ford Mustang de 62 200 quelques dollars qui n'est plus éligible aux crédits gouvernementaux. Ford voudrait peut-être faire appel de cette décision-là ou du moins discuter avec les gens du ministère qui, eux, m'ont confirmé que cette décision-là était définitive et sans appel, parce qu'elle n'avait jamais été mise en place. Autrement dit, on ne renverse pas une décision, mais on ne fait qu'appliquer une règle qui était là depuis le début en apportant une précision qui n'avait pas été apportée au départ. Donc, qui va gagner le combat? J'ai hâte de voir, mais moi, j'ai l'impression que de la façon dont ça va se finir, c'est que Ford va abaisser le prix de sa version.
C'est ça, cette histoire-là n'est pas terminée. Là. Il va y avoir des réactions parce que, tu le mentionnais sur d'autres tribunes, Ford a commandé un paquet de Mach-E, en fait, Premium 4 roues motrices. Là.
J'ai moi-même fait une vidéo il y a quelques semaines avec ce véhicule-là que j'ai partagé sur le site du Guide de l'auto, sur mes réseaux sociaux, où je mentionnais que c'est la version la plus intéressante de la gamme Mustang Mach-E.
Parce qu'elle a un équipement
une autonomie raisonnable, parce qu'elle est rouage intégral et parce que son prix, en considérant le crédit gouvernemental, devient... finalement, relativement alléchant par rapport aux autres versions. Ouais. Donc, c'est sûr que Ford avait considéré ça et la grande majorité des versions qui ont été commandées spécifiquement pour le marché du Québec, ce sont des versions premium all-wheel drive. Alors là, j'ai vu un autre mémo passer qui a été envoyé à des concessionnaires. Si vous avez récemment commandé des versions premium all-wheel drive, il est encore temps d'annuler vos commandes avant qu'on les mette en production. On est en mode réaction actuellement.
Je me mets à la place du consommateur qui achetait le véhicule en se disant qu'il allait avoir droit au rabais. C'est sûr qu'il va être déçu, là, et c'est certain que les concessionnaires vont devoir patiner pour essayer de redonner le sourire à ce client-là.
Bon, alors moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que Ford va prendre son prix de 62 245$. On va baisser le prix à 59 999$. On va peut-être grimper le taux de financement de 1% ou de 1,5% et on va finalement arriver à un résultat qui ressemble pas mal à celui qui était là au départ. Mais évidemment, ça fait pas l'affaire des gens de Ford et qui s'en lave les mains? Les gens de Tesla qui, eux, débarquent avec un modèle Y à 53 000$.
Et qui livrent à profusion déjà.
Oui, on n'a pas pas de délai de livraison, il y en a, il n'y a pas de problème. Alors moi, et j'ai juste trouvé...
On en livre depuis 6 mois, alors que le maquis, là, ça va arriver au printemps. Là,
quand j'ai partagé l'article que j'ai écrit sur mes réseaux sociaux...
Tu t'es fait lancer des roches.
Ben
là.
Oui, par les défenseurs de la marque Tesla qui disent toujours que j'en veux aux Teslistes de ce monde. Ben moi, je m'excuse, mais dans ce cas-ci, bravo à Tesla. Si moi, je m'appelais Tesla, j'aurais fait la même chose et ils ont gagné une manche par rapport à Ford. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Alors non, ce n'est pas une roche que je lance aux gens de Tesla. On appelle ça de la compétition et eux ont trouvé une faille et ils ont trouvé une façon de gagner un point par rapport à Ford. C'est une compétition, là. C'est pas compliqué, là. C'est de la concurrence et c'est comme ça que ça se passe. Donc, bravo aux gens de Tesla.
Tesla est peut-être plus sensible à les réalités particulières du Québec que Ford.
En fait, parce qu'ils sont concentrés sur ce marché-là plus que n'importe qui, alors que Ford, c'est une... Tu sais, Ford, on vend des F-150 et accessoirement, on vend d'autres choses. Là, on a compris que... Puis tu sais, même les gens de Ford le mentionnent. Pour eux, le marché du Québec pour le maquis, c'est un marché qui demeure embryonnaire par rapport à l'échelle nord-américaine.
Tout est à bâtir, là. Parce que c'est pas avec des fusions hybrides puis des
autos
électriques qu'on a développé un gros marché électrique.
Je pense
avec
par contre
Ford,
que
là.
Chez Ford, on sous-estime le pouvoir du marché québécois pour les véhicules électriques. Ça va falloir s'ajuster à ce niveau-là.
On sous-estime toujours le Québec, là.
Chez Ford particulièrement. Oui. Parce que le marché du Québec, pour ce qui est, par exemple, de l'Escape, de l'Explorer, en proportion du reste du marché canadien et surtout des États-Unis, c'est pas ici qu'on vend le plus de véhicules de façon générale. Toujours exception faite du F-150 qui se vend très bien. Quoique, tu sais quoi? Même si cette année, le F-150 a été le véhicule le plus vendu au Canada...
Il a perdu des plumes?
Au Québec, c'est Chevrolet qui vendait plus de camionnettes que Ford.
Parce que probablement qu'il y avait plus d'inventaire, tout simplement.
Il y a eu une... Je t'avoue que le camion Chevrolet au Québec, on le voit beaucoup. Chevrolet et GMC, là, évidemment. Ouais. Là. Mais on a réussi à dépasser Ford au Québec.
Et il y a des concessionnaires qui en ont vraiment fait leur cheval de bataille et qui en livrent à la tonne.
Oui, mais en tout cas, moi, Chevrolet n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Donc, on s'est concentré là-dessus.
Bon, est-ce que Ford a d'autres choses à vendre?
Un mot en terminant pour vous mentionner que on devait recevoir en entrevue cette semaine les gens du ministère des Énergies et des Ressources naturelles qui, à la dernière minute, ont refusé notre entrevue en nous disant qu'il y avait de nouvelles informations qui étaient arrivées à leurs oreilles et que cette entrevue-là serait reportée. Alors, est-ce qu'on pourra leur parler pas juste de la Mustang Mach-E, mais de tout
le programme de crédit gouvernemental pour des véhicules hybrides
verts, voilà. Alors, c'est un peu l'objectif de l'entrevue. Est-ce qu'on pourra leur parler la semaine prochaine?
On croise les doigts.
En attendant, après la pause, on va parler à André Gamelin de Pièces d'Auto Super, qui va nous parler du domaine de la pièce automobile qui a été chamboulée. Pour le moment, Germain, on parle des véhicules de la semaine qu'on a mis à l'essai.
Oui, effectivement, de mon côté, j'ai conduit la CT4, donc la Cadillac CT4.
Merci de mentionner la marque, parce que CT4...
Oui, ça ne dit pas grand-chose à grand monde encore. Donc, grosso modo, c'est l'évolution de l'ATS qui n'a pas été très, très, très populaire. Et Cadillac continue d'offrir deux berlines.
En fait, je te corrige, parce que l'ATS s'est très, très bien vendu dans ses premières années.
Oui, mais ça s'est vite essoufflé, là.
Voilà.
Et donc là, on revient avec une berline plus petite, donc la CT4, en plus de la CT5 dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Et moi, j'ai pris le téléphone et j'ai contacté les gens de General Motors pour savoir est-ce que c'est vraiment pertinent de conserver deux berlines qui, a priori, semblent très proches.
Ramener deux berlines, parce qu'on avait abandonné le marché.
Oui,
là.
Et là, on des nouvelles nomenclatures, nouveau look, nouvelle motorisation, nouvelle approche, parce que les versions V n'ont rien à voir avec les ATS-V et CTS-V. Donc, et ce qu'on m'a dit, c'est que plusieurs joueurs les avaient carrément abandonnés.
Donc, il y avait une fenêtre d'ouverture.
Donc, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait de ce côté-là. La vérité, c'est que la CT5, on en voit un petit peu sur les routes. C'est un produit, comme je l'avais dit, qui m'avait bien épaté. Un produit produit abouti avec une
Tu seras peut-être d'accord avec moi, par contre, à chaque fois qu'on croise une CT5 sur la route, c'est une version V.
Oui, mais...
On voit pas de version de base, là.
Non, non, et c'est une version intéressante.
Ben, c'est la plus intéressante du lot, ben, clairement.
Oui, oui. Et la version luxury haut de gamme, si je me trompe pas.
Premium luxury avec moteur V6.
Avec moteur V6, exactement. Ouais. Donc, qui a quelques chevaux de moins, mais...
Qui joue une carte plus luxueuse que sportive, mais qui offre quand même une mécanique intéressante.
Ça peut être intéressant, c'est ça. Mais là, la CT4, ben, j'ai trouvé que c'était un peu moins convaincant comme produit parce que ça reste une voiture qui est chère, surtout dans sa version V. C'est une voiture qui est... on se sent très à l'étroit. C'est raide comme c'est pas possible. Donc, si vous imaginez la marque Cadillac comme étant une marque là, de confort, de luxe qui déborde partout, c'est pas dans la CT4V que vous allez retrouver ça. Franchement, j'irais même jusqu'à dire que c'est difficile de vivre au quotidien avec une voiture comme ça.
C'est une sportive quand même assez radicale. Le problème que j'ai, moi, avec cette voiture-là, c'est que c'est du gros réchauffé. Ouais. C'est qu'on a pris une ATS qui a été lancée sur le marché en 2012, donc il y a près de 10 ans. La voiture a eu le temps de vieillir, de s'essouffler. On l'a abandonnée chez GM et on la ramène presque 2 ans plus tard avec un recarrossage partiel, une nouvelle planche de bord, une nouvelle mécanique dans le cas de la version V, mais sinon, c'est le 4 cylindres 2 litres.
Oui, parce que la version V, ben, c'est le 4 cylindres, un 4 cylindres aussi, mais de 2,7 litres, turbo compressé, qui est une application un peu plus normale que dans une camionnette pleine grandeur.
Oui, parce que c'est un moteur qu'on utilise dans le Silverado aussi.
Mais tout ça pour dire, si vous voulez une berline de Cadillac, les deux véhicules sont tellement proches et tellement proches aussi en échelle de dans leur échelle de prix. Faites la différence pour aller vers la CT5. Pour moi, c'est un véhicule beaucoup plus convaincant, là, beaucoup plus abouti.
Clairement, puis c'est parce que cette année, la CT4, on la catégorise différemment. C'est-à-dire que dans le passé, l'ATS se voulait une rivale de la série 3. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, l'ATS se veut une rivale de la nouvelle série 2 berline ou de la Audi A3.
Et la CT5, elle est un petit peu plus grosse que les séries 3. Donc, on est vraiment là entre des
Mais en termes de format, c'est une voiture qui me rappelle beaucoup l'Acura TLX, qui elle aussi vient rivaliser des séries 3 et des Audi A4 et des classes C.
Mais en termes de format et même de mécanique, on est entre des segments.
Ouais,
là,
c'est ça. Mais tu l'as dit, la CT5 est une voiture nettement plus intéressante, même si elle est juste un peu plus chère, mais je pense que la valeur est plus là qu'avec avec la CT4, qui est une voiture qui est vouée à l'échec. Et si on regarde les chiffres de vente canadiens des modèles CT4 et CT5 pour 2020, ben c'est pas compliqué. Il s'est vendu presque 60% plus de CT5 que de CT4 l'année passée, malgré son prix plus élevé, ce qui pour moi veut tout dire.
Et de ton côté, tu as conduit un autre véhicule à 2 lettres en chiffre, le Mazda CX-5.
Oui, CX-5, mais dans sa version 100e anniversaire parce que c'est le... Bon, tu me disais à la blague que le
j'ai l'impression qu'on célèbre là, un anniversaire à chaque année.
Ouais.
Il y a 2 ans, c'était le 50e anniversaire de Mazda au Canada. Là, on célèbre le 100e anniversaire de Mazda tout court. La semaine prochaine, on va célébrer l'anniversaire de je ne sais pas qui, mais tant mieux.
Mais ça donne quand même une version, plus chère que la moyenne, 43 550.
Il est beau, là.
Mais finition de très, très haut niveau, performance intéressante, moteur turbo compressé, 250 chevaux avec du super, bon rouage intégral. Je t'avoue que ce véhicule-là, tu sais, vieillit bien, on le raffine à chaque année, on fait des efforts presque surhumains pour rehausser l'image de marque. Et chez Mazda, on a décidé...
Et cette version-là participe à tout ça, là, parce qu'on a une peinture qui est exceptionnelle, agencée avec des roues gris foncé. On n'a pas été joué dans le classique des roues noires. Un bel intérieur en couleur rouge.
La finition est magnifique. C'est vrai aussi pour le niveau de luxe, le comportement, tous les efforts qu'on a apportés sur le véhicule. Je te dirais, à l'exception du fait qu'on conserve une boîte automatique à 6 rapports qui commence à être vieillissante, je t'avoue, dans un contexte actuel. Plus personne offre ça, hein, ou à peu près, des boîtes à 6 vitesses. Et ça paraît un peu sur la consommation, un peu sur les performances. Je pense que si on veut se comparer, par exemple, à des marques de luxe, comme à un Audi Q5 ou à un Mercedes GLC, ouais. Ce qui manque au Mazda CX-5, outre l'emblème qui n'est pas aussi prestigieuse, là, c'est une boîte automatique moderne à 8 rapports plus efficace qui permettrait de rehausser le niveau de rendement de la mécanique, donc pour gagner en performance et en consommation d'essence, parce que sinon, tout est là. Franchement, là, tout est là. Bon, tu vas me dire que non, un Mazda, c'est pas une Audi, d'accord, mais quand tu paies 10, 12, 15 000 $ de moins pour un produit qui est carrément équivalent, ouais. Je pense que la valeur est là et tous les gens qui vont prendre le volant de ce véhicule-là vont être surpris de la qualité, du niveau de finition, du raffinement.
Ouais. Il mérite totalement qu'on prenne le temps de s'y attarder, là.
Puis une petite note pour mentionner qu'on a lancé aussi cette année une version Kuro qui, moi, me plaît particulièrement, qui se situe dans la gamme entre la version GS et la version GT. Je trouve que c'est un bel ensemble. Le rapport équipement-prix est intéressant, puis je pense qu'on va connaître du bon succès avec ça.
Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain avec nous cette semaine, André Gamelin, qui est rendu un habitué de l'émission et qui va nous faire peut-être un bilan de 2020 et de ce que la COVID-19 a eu comme impact sur l'industrie de la pièce automobile. Salut André.
Hey, ben bonjour Antoine, bonjour Germain.
Bonjour André.
Bon, André, président de pièces d'auto super à Saint-Hubert et bientôt à Saint-Jean-sur-Richelieu, faut-il le mentionner. André, tu me disais la semaine dernière que pour vous autres, on était actuellement dans une période de troisième vague dans l'industrie de la pièce automobile. Explique-moi un peu ce que tu veux dire par là.
Bien, c'est tout simplement qu'à Wuhan, en Chine, eux autres, la première percée du COVID, elle s'est faite, on parle de 2019, quand on parle octobre-novembre, on ne sait pas vraiment la date précise, mais à ce moment-là, quand tout a arrêté en 2019, bien, déjà, les exportations, tout a arrêté. Puis à Wuhan, pour nous autres, en Chine, c'est une pièce qui a beaucoup de fonderies.
Okay.
Ça veut dire que tout ce qui est métal, fait que ça, c'est la première. La deuxième, bien, on sait que c'est arrivé nous autres au Canada en mars 2020, tout a pas mal arrêté partout.
Ouais.
Et la troisième aujourd'hui, pour nous autres, parce que là, les commandes commencent à avoir de la misère à rentrer en cours. Fait qu'on était à la troisième vague. On va peut-être en avoir 4-5, mais on est rendu à la troisième.
Bon. Parle-moi un peu de ce que ça a eu. Comment se fait-il qu'actuellement, encore aujourd'hui, il y a une forte pénurie de pièces? Parle-moi de l'approvisionnement, des délais de transport, des compagnies qui ont peut-être fabriqué des pièces sur les freins par peur de ne plus avoir de marché, là.
Ben écoute, je prendrais ça, je te dirais d'une autre façon, ça a été, comme je disais, un peu l'année de tous les dangers, parce qu'au Canada, on a écopé... C'est le transport au complet avec le COVID-19. Hein. Disons qu'il y a eu beaucoup de cyclones dans le Pacifique. Il y a eu les émeutes aux États-Unis, les trains qui ont arrêté aussi,
ouais.
Les grèves de ports. Fait que tout ça, là, réuni ensemble, bien, ça a des impacts différents à différents moments. Comme on parle d'impact de problématiques, comme une qui touche cet hiver, bien, un qui est impacté en premier lieu, qu'on est touché fort, c'est les bougies NGK.
Okay.
À ce temps-là, le taux de remplissage de commandes est d'être 85-90% et 40-45%. Puis on parle au niveau des bougies de motoneige, il y a peut-être 10-15%. Fait que ça vaut de l'or une bougie de motoneige cette année.
Et ça n'allume pas fort.
qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la pièce comme ça? Est-ce qu'on réussit à trouver une pièce qui serait substitut? Est-ce qu'on dit au client, ben désolé, je ne l'ai pas, allez ailleurs? Comment ça se passe là, de gérer cette forme de déception-là, de pénurie-là?
Oui, bien si on y va, mettons, par segment. Mettons, si on prend une bougie, ben écoute, il y a la bougie d'origine et la bougie de remplacement. Tu peux jouer un peu. Mais quand tu arrives dans les freins pour un 10 de frein, mettons, comme cette année, une pénurie à un moment donné de 10 de Dodge Caravan, parce que les grands importateurs en ont manqué. Puis souvent, on s'est aperçu que ces pièces-là, en plus, on ne dira pas trop fort, mais ils partent de la même place dans différentes boîtes.
Fait okay.
qu'on en manque tous en même temps dans ces produits-là.
Et Dieu sait que des pièces de frein de Dodge Caravan, c'est en demande.
Oui, ben, je dis ça parce que c'est toujours le volume hein, du véhicule. Mais l'impact qu'il y a eu, mettons, si on vient toujours sur NGK, mais il y en a plusieurs autres, c'est que ces manufacturiers-là, souvent, c'est des manufacturiers d'origine d'équipement. Donc, nous autres, l'après-marché, on peut-tu comprendre qu'on passe en deuxième?
Il faut expliquer aux gens ce que tu veux dire par origine équipement, c'est-à-dire que le constructeur lui-même va faire appel, oui, par exemple, à NGK pour son véhicule lorsqu'on le fabrique en usine, et ça devient, oui, aussi la pièce de remplacement. Ouais.
C'est ça. Là, à ce moment-là, bien, on écope, puis le taux de remplissage, bien, c'est, les délais sont plus longs, fait qu'on en subit des conséquences. On offre une alternative, oui, mais disons que ça n'a pas été agréable tout le long de l'année. C'est sûr qu'on a eu tout le monde d'automobile, des très belles années, mais le secret, c'est d'avoir des variétés de produits. Puis, il y a eu beaucoup d'impact aussi au niveau des entrepôts. Mettons moi ou à une autre échéance, un entrepôt qui a 2 millions de commandes en transit perpétuellement, ça fluctue là-dedans, ces commandes, bien, il pouvait monter à 5-6 millions de commandes en transit. Vu que les commandes ne rentrent pas, le transit est encore plus gros.
Autrement dit, on n'arrête pas de commander, mais les délais d'arrivée de la pièce est plus long. Donc, il y a 6 millions de dollars de pièces qui sont quelque part sur les routes en train de se faire livrer, mais qui n'arrivent pas.
En train, oui, c'est le cas.
En train.
Oui, voilà. Parce que ça arrive, j'imagine. Ça arrive par à peu près tous les moyens de transport, un peu par bateau, un peu par train, oui, un peu par camion, j'imagine.
Oui, oui, puis même, on a eu des problèmes même d'approvisionnement parce qu'à un moment donné, il manquait de containers. C'est que les containers, quand le COVID est arrivé, bien, les pays ne retournaient pas les containers parce que les bateaux ne circulaient pas. Fait qu'ils sont restés sur les quais. Donc, les commandes qui se plaçaient, peu importe d'où elles partaient, c'est comme pas retourner ton panier à l'épicerie. Fait qu'il manquait de containers. Fait que là, l'approvisionnement s'est doublé de toutes sortes de problèmes qui étaient absolument impensables, mais qui sont arrivés. Fait que oui, le transporteur par route avait des problèmes parce qu'il manquait de personnel. Tes délais, mettons, nous autres, nos délais normaux de livraison, on va dire, quand ça vient des États-Unis, une semaine et demie, mais là, ça a été jusqu'à 5 semaines et 6 semaines.
Wow!
Puis là, tu veux pas manquer de produits, fait que ton min-max de produits, tes quantités, tu dis tel numéro, j'en garde 10. Bien, je m'attends, je vais en garder 30. Mais ça rentre pas plus.
Parce qu'il faut mettre les gens en contexte aussi, c'est que tu dis 4 à 5 semaines pour commander une pièce, il me semble que c'est pas si pire, mais quand la voiture est sur le lift dans un garage, oui, puis qu'il faut la réparer cet après-midi,
c'est extrêmement long,
ça
coûte cher.
Ça a aucun sens.
Il y a des grands frais associés au client qui est le garage, là, finalement.
Absolument. Alors. Puis est-ce que André, cette situation-là a eu des impacts sur le prix des pièces? Est-ce que la valeur de certaines pièces ont augmenté? Et si oui, à quoi est-ce qu'on attribue l'augmentation du prix des pièces?
Je dirais que les prix, dans le contexte où on était, puis on parle de 2020, les prix, il y a eu une augmentation tout simplement, je dirais, dans la régularité des choses, la fluctuation de l'argent ou une augmentation parce que ça peut être un peu plus rare, mais on a des avertissements sérieux. Là, je dois te dire que janvier et février, là, l'impact va se faire sentir. Je dirais que pendant le COVID, les manufacturiers, ça va mal. Tu sais, j'irai pas t'achaler pendant que ça va mal, puis je vais rester tranquille, mais il semble avoir une revanche pour 2021, puis elle est drôlement amorcée.
Évidemment, comme dans tous les secteurs de l'automobile, la pénurie de main-d'œuvre est un fléau. Évidemment, avec ce qui est arrivé cette année, considérant en plus la PCU, j'imagine que ça n'a pas dû aider. Comment tu t'en es sorti, toi, de ton côté?
Bien, écoute, nous autres, le gouvernement était un grand compétiteur avec la PCU, puis on le comprend, c'est que ça a un impact sur l'augmentation salariale. C'est sûr que la masse salariale a fait augmenter nos gens pour toutes sortes de raisons. La PCU, les gens, tu sais, ils veulent travailler, mais ils sont impactés. Qui va rester à la maison, garder les enfants? Bien, gars, je vais te donner une augmentation de salaire pour que tu puisses venir travailler. Oui, ça a eu un impact financier pour garder nos employés, faire une rétention. Puis travailler dans un climat qui n'était pas tout à fait agréable non plus, faut se le dire.
Ben ouais.
Nous autres, si on parle physiquement, là, livrer, tu sais, le contexte du COVID a fait changer les façons de faire. C'était un peu tout le temps en changeant tous les mois. Tu sais, t'exiges au chauffeur de livrer le produit avec le masque, il débarque, il dépose le produit à l'extérieur du garage. On faisait même plus signer facture. Tu sais, on prenait le nom de la personne, il l'écrivait, tu prêtais pas ton crayon. Fait que ça, les délais sont rallongés dans les livraisons. Ça a eu énormément d'impact dans tout ça.
Et toi, André, qui dans l'histoire là, de pièces d'auto super, t'as su innover à différents moments, comment t'es arrivé avec des solutions à ces problèmes que tu viens de nous énumérer, autant en approvisionnement qu'avec la pénurie de personnel ou la gestion de personnel?
Est-ce que t'as donné 1 000$ à tout le monde qui voulait aller en vacances, toi?
Non, il a donné un café à tous ceux qui voulaient aller dans l'entrepôt.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Disons que, honnêtement, je suis choyé, j'ai une très bonne équipe dans le magasin, mais tu sais, tu as des packs. Si tu en pars un qui a eu COVID, on était chanceux, on a eu rien qu'un. Mais si on a eu un qui part, bien, qui était à l'entour, il s'en va en quarantaine, on a instauré tout le long que ça s'est progressé, des plastiques entre les gens. On a quelqu'un en permanence qui est engagé pour nettoyer. Hey, écoute, tu monterais dans les bureaux, tu te promènes dans le magasin. Des fois, je pense dans une piscine olympique. Ça sent assez classe.
Ça sent le désinfectant partout.
Ah, au bout. Fait que tu sais, on a mis beaucoup de mesures, mais plus tu mets de mesures, plus ton temps, ton opération physique est moins efficace parce que tes délais, les gens, la téléphonie, mais sauf que l'incidence que ça a eu, nous autres, c'est pas comme Amazon, mais le niveau de commande en ligne a nettement augmenté cette année.
Bien, tu nous ouvres la porte là-dessus, c'est intéressant, parce que tu as pris la balle au bon. Je sais que tu as refait ton site Internet. Bon, tu t'es aidé, oui. Mais en même temps, les gens ont plus que jamais magasiné en ligne. Est-ce que tu as dû te réadapter ne serait-ce que pour une question de livraison, de gestion de commandes?
Oui, écoute, une grosse réadaptation. Premièrement, on a fait un département d'expédition pour tout ce qui était par transporteur, Bureau ou UPS ou Poste Canada. Oui, un département avec des boîtes. On a augmenté notre vitesse Internet pour être proactif. Une machine qui imprimait l'étiquette, qu'on met sur la boîte, l'expédition. Oui, c'était un département, même que là, on va avoir des gens à plein temps, là, parce qu'on sait que ça va perdurer, puis on a changé les...
À plein temps que pour gérer les commandes en ligne.
Oui,
parfait.
Je recommande l'expédition et tout. Oui, c'est à plein temps. Puis, tu sais, c'est long une expédition en ligne. Là. Le temps de mettre ça dans la boîte, être sûr que c'est la bonne pièce, avec le suivi de ça, là, je dirais que c'est jusqu'à un certain point plus lourd que l'expédition normale à un atelier ou la personne qui vient en magasin, mais c'est une transition d'avenir qu'on n'a pas le choix.
D'autant plus que si tu te trompes dans la commande, ben l'impact est 2 fois plus complexe. Là.
Ben j'allais demander justement pour les retours comment ça se passe, parce que bon, déjà, c'est un phénomène qu'on peut voir. Le garagiste ou le consommateur va commander une pièce, va tenter de l'installer. Ah, finalement, ça ne fit pas, comme on dit. On la retourne. Oui. Là, comment ça se passe quand on commande en ligne?
C'est quand qu'on s'aperçoit, on a quelqu'un au magasin qui surveille tout le temps, toutes les commandes en ligne et tout ce qui se passe dans l'Internet. Je dois te dire, écoute, on a un taux de retour, je dirais, d'à peine 1%. C'est, écoute, on valide quand on n'est pas sûr, on va rappeler la personne. Tu sais, quand tu ajoutes en ligne, on s'est aperçu, tu ajoutes en ligne, mais tu sais que la place a une place physique que tu peux appeler ou à tout le moins te rendre. S'il y a quelque chose, fait que les gens, bien écoute, on rentrait en communication, il y avait 2 modèles. Ou toutes sortes de choses, écoute, ça aidait beaucoup à diminuer le taux de retour et aussi la confiance.
Mais moi, je soupçonne, André, qu'il y a un marché noir. J'ai l'impression que les gens commandent chez vous pour revendre sur eBay ou sur Kijiji à prix plus élevé parce que les pièces se font très, très rares. Il y a peut-être ça aussi que tu n'as pas anticipé. Là.
Ah, c'est ça. Mais écoute, je dois dire, l'impact que ça a eu, écoute, vous allez bien vous tenir. Nous autres, on veut se lancer beaucoup dans le futur. Tu sais, on a fait le salon des véhicules électriques.
Ouais.
On a une boîte, puis on surveille ça. On a des bonnes extérieures. Bien, écoute, cette année, on a rentré, écoute, tellement changeant, on a rentré des véhicules Traxxas, des véhicules télécommandés électriques.
Oui.
C'est un succès royal. On a expédié jusqu'à Vancouver, à travers le Canada. On a rentré des vélos électriques pour faire un test de marché. On a tout vendu, les vélos électriques qu'on avait, parce que c'était pas se lancer dans le vélo, mais se lancer dans le monde électrique. Mais ça, vu que le COVID nous a forcé à penser des choses différentes et des façons différentes, donc par extension, on a modifié nos choses dans le magasin, nos façons de faire. Fait que ça a amené beaucoup de changements en 2020, oui.
Je veux juste te dire que tu pourras pas vendre de Tesla, par exemple, parce que Tesla a monopolisé la vente de ses véhicules. Ceux qui en vendaient de façon indépendante se sont fait couper les vivres. Fait que si tu avais l'intention de vendre des Tesla, ben oublie ça.
Mais il y a des pièces de Tesla qu'on va pouvoir vendre, ça.
Oui, c'est le fun qu'il y en ait plus, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Ça... Oui, ça, on en a, puis on force... Ici, on est très proactif au Québec, si on déborde un peu. On a beaucoup d'importateurs québécois qui les font fabriquer de ce temps-là, peu importe la pièce. Ça rentre de plus en plus, les pièces de Tesla, vu leur intransigeance à collaborer dans l'après-marché, bien, on se débrouille.
Bon, on est encore au début de l'année 2021. Je pense qu'on peut se permettre de poser la question quand même. Si tu avais un bilan à dresser de l'année 2020, ça ressemblerait à quoi?
Considérant peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, au final, ont quand même avoué que sur le plan financier, ça n'avait pas été si mauvais. Là. Ouais.
Non, écoute, je dois être franc, nous autres, là, quand tout s'est mis à déborder comme avril, mai, juin, écoute, je dois te dire que le magasin, physiquement, là, ne pouvait pas suffire à la demande. On a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars de ventes parce qu'on ne pouvait pas fournir le marché. C'était l'hécatombe. Je te dis, c'était terrible. Mais ça, l'impact qu'il y a eu, ça a été, premièrement, on était ouvert le dimanche, on n'a plus jamais ouvert le dimanche, on n'a pas ouvert le jeudi soir, vendredi soir comme avant. Il fallait faire une concentration d'employés parce qu'on était très occupés. Puis d'autres phénomènes qui sont passés, très étranges, c'est qu'on dirait que les gens, en étant à la maison, point de vue automobile, les gens ont conscientisé peut-être que l'entretien, c'était plus important qu'avant. Puis aussi, peut-être que...
Ils avaient le temps de s'en occuper aussi, là.
Puis je pense, écoute, Antoine, tu sais comment ce qui est malfaisant, il me dirait peut-être que les femmes étaient tannées d'avoir leur homme dans la maison.
Oui, avec les heures, on dit, va donc arranger mon char dehors, là, ça ferait du bien, ça te ferait quelque chose à faire. C'est ça.
Ben... Le département d'entretien est devenu énorme. On a même engagé quelqu'un à...
J'aime ça, André, d'ailleurs, quand tu me mets des mots dans la bouche comme ça, alors que c'est toi qui portes des intentions. En tout cas, on s'en parlera hors d'onde.
Je veux pas être mêlé à ça.
Oui, on a mis quelqu'un dans l'entretien parce qu'on a un gros département d'entretien. Et écoute, juste pour te dire, présentement, au Canada, là, on dirait pas trop fort, on est devenu le plus gros vendeur d'essoreuses à chamois. Écoute,
donc, quand tu parles d'entretien, tu parles de produits
esthétiques. Là, voilà.
Esthétique, absolument. Fait qu'on a mis quelqu'un qui répond aux gens à l'intérieur. Puis ça, ben, c'est un bon signe pour l'après-marché et l'entretien des véhicules. Ne serait-ce que penser à l'entretien, ben oui, puis par extension, les ateliers étaient tellement occupés que les gens essayaient de plus, pas parce qu'ils voulaient sauver de l'argent, là, mais les gens ont une augmentation de vente d'outils de base. Les gens voulaient plus se réparer parce que les garages ne pouvaient plus tout faire. Parce qu'on arrive dans le contexte, tu as les pneus d'hiver que tu vas enlever, puis là, tu découvres que tu peux la faire réparer ton auto. Fait que on n'était pas capable de répondre. Donc,
ben, c'est un peu le même principe que les coiffeuses qui n'étaient pas disponibles, puis les gens qui ont commencé à se couper les cheveux eux-mêmes. Des fois, ça donnait pas toujours des résultats heureux, mais au moins, ils s'essayaient.
C'est ce que j'allais dire. J'espère que c'était un peu plus heureux dans le domaine de l'automobile, parce que dans le domaine du cheveu, c'était pas toutes des grandes réussites.
Et t'en es la
preuve vivante.
Je parle
par expérience, voilà.
Écoute.
Heureusement qu'on est à la radio.
Bien, c'est paradoxal, c'est exactement le même phénomène. On disait à la personne, je pense que vous êtes mieux de pas toucher à ça, là. Puis surtout, des fois, il arrivait comme deux, trois qui voulaient s'aider entre eux autres. Mais veut pas, ça prend les compétences et l'équipement. Hein?
Oui, bonjour, Monsieur Gamelin. J'aimerais essayer d'ajuster mon carburateur sur ma Chevrolet Volt. Pouvez-vous m'aider?
un tournevis plate, mon Antoine.
C'est ça, exactement.
Oui. Mais bon. Là, avec l'incidence, par exemple, du télétravail, tout ça... par exemple, je me demande si ça va avoir un impact total d'un véhicule, parce que là, il va y avoir sûrement moins de circulation à long terme. Là.
Ben oui.
Je veux dire, mais...
Mais il y a des entretiens à faire, même si un véhicule ne roule pas ou roule moins, là. Oui. Ça, c'est certain.
Je vais te dire, même, il y a plus de dommages.
Bon.
Je suis convaincu, comme un peu l'année passée, des freins qui sont tout roulés. Mm-hmm. On va voir ça. On a eu, cette année, une année incroyable dans les batteries. C'était... une meilleure année, l'été qu'on a eu, que les pires hivers quand il faisait des moins 25, moins 30. Mais on sait pourquoi. L'auto est stationnée à la maison.
Elle bouge pas, voilà.
Court trajet, batterie. Il y a eu des incidences. Oui, il y a eu des incidences à toutes sortes de moments dans toutes les versions de produits dans l'automobile.
Et comment tu anticipes, en terminant 2021, est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles tendances qui vont s'installer? Est-ce que tu penses que le marché va changer un peu? Bon, évidemment, c'est difficile de dire quand va être réglée l'histoire de la COVID, mais...
C'est difficile de faire des prévisions,
ça. Oui, c'est ça. Mais avec, bon, tu as l'ouverture de ton deuxième magasin sur une note un peu plus personnelle, bien sûr, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont changer drastiquement dans le marché général de la pièce automobile?
Dans la pièce, je dirais, dans le global d'automobile, on constate les ateliers et tout, même à mon domaine, à moi, il y a beaucoup de gens dans mon domaine qui ont un certain âge. Disons que tout ce qui se passe, c'est pas agréable d'être en commerce de ce temps-là, il faut se l'avouer franchement. Il va y avoir des gens, on va perdre beaucoup de gens par pré-retraite et retraite. Dans l'année qui vient, ça c'est sûr et certain. L'incidence après ça...
Donc, pénurie de staff dans tous les domaines, oui, c'est ça.
Absolument. Puis ceux qui partent, bien souvent, sont le mentor de d'autres personnes. Que c'est un atelier mécanique, un magasin de pièces auto, on va le ressentir et on le ressent. Là. Puis on se fait avertir par nos gens, tu vas perdre lui.
Ah oui.
Donc, les ressources, ouais, on va l'arracher. Puis aussi, l'incidence de l'année, bien écoute, je pense que la pénurie de pièces, on dirait qu'on a appris à vivre avec le COVID ou l'incidence que ça peut avoir, mais je pense qu'il va y avoir certains petits heures pendant l'année qu'on n'aura probablement pas vu. Je pense que oui, il va y avoir de l'entretien, les gens vont prendre le bon côté, plus conscience d'entretenir leur véhicule parce qu'il y a un coût financier. Et aussi, les gens ont peut-être eu plus le temps, soit d'entretenir même la tondeuse ou la souffleuse. Mais on voit
ou de s'éduquer à ce sujet-là.
De s'éduquer.
Ouais.
Je pense bien que c'est un effet bénéfique de ça. Et aussi, ben nous autres, on s'en vient, on refait notre site Internet en ligne qui va être relâché environ dans un mois et demi. Tout un changement parce que définitivement, les gens, je pense qu'ils ne veulent pas tout le temps aller dans les commerces. Et aussi, ton choix en ligne, nous autres, notre choix en ligne va être... beaucoup plus grand en ligne qui va même être dans le magasin par toutes sortes d'ententes. Je pense que les ventes en ligne, ça va être le gros point cette année qui va augmenter. On s'oriente à même mettre plus de personnel physique à plein temps dans l'Internet.
En terminant, je t'en envoie une petite vite, peut-être que tu as quelque chose qui va te venir à l'esprit. Est-ce qu'il y a une pièce cette année que tu as vu se vendre dans une quantité incroyable, autrement dit, une grosse faiblesse sur une voiture précise que vous avez pu dénoter parce que vous vendez des pièces sans cesse?
Je te répondrai ce qui nous a frappé cette année-là. Écoute, c'est une année qui a fait très chaud. Tout ce qui était climatisation.
Ah là, oui, hein?
Ça a été faramineux. Il n'y avait plus de compresseur. On manquait le nouveau gaz 1234. On en manquait. Il y a une autre qui a fallu enlever le gaz de notre inventaire pour le vendre dans nos ateliers parce que si on le mettait en ligne, on se faisait tout vider. Ça a été l'air climatisé qui a été la championne au-delà qu'on n'a jamais vu depuis que j'ai un commerce. L'air climatisé cette année-là parce que l'incidence de la chaleur puis que les véhicules, là, il y a 15 ans, l'air climatisé, c'était une option. Mais cette année, c'est pas une option. Puis les compresseurs sont de plus en plus petits. On leur demande des performances. C'est comme moi, je pèse 160 livres, mais il faut que je travaille comme un gars de 300 livres. Ben, on leur en demande énormément. Puis il y a certaines faiblesses d'origine. Tout est en augmentation dans notre domaine. Mais l'air climatisé, c'est notre championne.
Antoine donc, est un gars de 180 livres qui travaille comme un gars de 180 livres.
Oui, c'est ça. Germain, tu veux-tu qu'on aille là vraiment?
Non, pas vraiment. Okay, on peut continuer. Merci.
Bon, ben merci, André, de nous avoir mentionné ton poids. Et écoute, bonne chance dans les prochaines semaines. On va voir comment les choses vont débouler. J'ai bien hâte de voir, mais je pense que la chose qu'il faut retenir, c'est la pénurie de main-d'œuvre et aussi le fait que les écoles étant au ralenti, ben de trouver du staff qui sort de l'école fraîchement formé, c'est pas évident non plus. Ça va être difficile cette année. Donc, à ceux qui s'intéressent au domaine...
c'est une belle porte d'entrée dans le domaine automobile.
Ben oui, absolument.
Une très belle école.
C'est un domaine, moi, j'adore le domaine automobile. Écoute, moi, j'adore ce que je fais, je compte pas le temps. C'est tellement passionnant et aussi évolutif.
D'ailleurs, ta femme m'en parlait du fait que tu comptes pas le temps au travail, André.
Merci beaucoup, André.
On la salue.
Merci, André. Bon succès avec la deuxième succursale.
Merci, très gentil.
Merci, bye-bye.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, les deux dernières années, on a enregistré des émissions en direct du Salon de l'Auto de Montréal. Et cette année, ben, on n'est pas en direct du Salon de l'Auto de Montréal parce qu'il n'y a pas de Salon de l'Auto de Montréal.
Et j'avais envie de te résumer ce qu'on vit chaque jeudi autour du 13, 14, 15 janvier à chaque année. C'est la journée média du Salon de l'Auto de Montréal. Alors, comment ça se passe? D'abord, l'habitude que j'ai depuis maintenant plus de 20 ans, parce que j'ai commencé à aller au Salon de l'Auto de Détroit en 96 et je n'en ai pas manqué un depuis. C'était que on allait au Salon de l'Auto de Montréal pour les journées de Détroit, pardon, pour les journées médias. On revenait le mardi soir.
Souvent en pleine tempête.
Souvent en pleine tempête. Le mercredi, c'était une journée de relations publiques avec des constructeurs automobiles qui se déplaçaient de Toronto vers Montréal. Et le jeudi matin, à 7h30, on se présente au Palais des Congrès.
Oui, 7h30.
7h30 pour le déjeuner classique, hein, servi avec un buffet. Ensuite, le mot du président et du porte-parole de l'événement qui est toujours Bertrand Godin.
On a eu certaines personnalités politiques aussi qui étaient venues dans les dernières années, dont Denis Coderre, alors qu'il était maire de Montréal.
Oui, la mairesse, par contre, on ne l'a pas vue souvent. Je me demande pourquoi. Elle était peut-être au salon du vélo, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était la tradition de manger nos œufs un peu plastifiés en écoutant la conférence de presse. Et ensuite, c'est la tournée
des
constructeurs.
Et de retrouver des collègues qu'on ne voit pratiquement qu'une fois par année. Là.
C'est ça, parce que tous les journalistes automobiles et les médias qui couvrent l'événement sont présents sur place. Alors, c'est un festival de poignées de main, de salut, de bonjour les gars. Et c'est toujours bien agréable de faire ça.
Et après ça, le mouton prend son envol.
Voilà.
Le troupeau de moutons prend son envol.
Pendant des années, c'est Didier Scranen qui, micro en main, nous appelait à le suivre pour aller assister à chacune des conférences de presse de chaque constructeur qui vont se vanter d'avoir battu des records de vente à chaque fois et qui vont nous présenter un véhicule ou deux.
Encore plus beau et plus moderne que jamais.
Ben voilà. Des fois, c'est des véhicules qui ont été dévoilés à Détroit, donc on les a déjà vus. D'autres fois, c'est des primeurs Montréal.
Souvent, c'est des véhicules qui ont été dévoilés à Détroit l'année d'avant, là.
Ben, dans le cas de certains prototypes. Mais des fois, il y a des primeurs canadiennes.
Ouais.
T'sais, c'est souvent le cas quand c'est question de voitures compactes. Mais
souvent, on va les réserver pour le Salon de l'Auto de Toronto qui a lieu quelques semaines plus tard.
Bon, puis, à Montréal, on va dévoiler les gagnants de l'AJAC. On va présenter, par exemple, des porte-paroles de compagnies, comme par exemple, Guillaume Lemaitre-Vierge va être présent pendant que Marie-Lou Wolfe et ses Chevrolet. Fait que, on rencontre des anciens couples qui se retrouve dans deux différents départements. Et bref, on se promène jusqu'à environ 15 heures de l'après-midi pour assister à l'ensemble des conférences de presse.
Pas plus tard que ça, après ça, on se fait quasiment chasser parce que c'est le palais se transforme
en
banquet, exactement. Donc, si tu veux retourner sur le parcours pour prendre des photos, pour parler à un représentant d'une marque, tu dois te faufiler entre les tables, entre les chaises de banquet.
Et il faut comprendre que le salon que les visiteurs vont voir, ce n'est pas le salon qu'on voit le jeudi parce qu'on n'a pas placé tous les véhicules sur place. On a mis en scène les véhicules qu'on voulait mettre en lumière, mais l'ensemble des véhicules ne sont pas là. C'est dans la nuit qu'on fait ça, entre le jeudi et le vendredi, où on installe vraiment les kiosques de façon finale après justement le banquet qui invite généralement les présidents des concessionnaires, propriétaires de concessions, directeurs régionaux des constructeurs automobiles. Tout le monde se rassemble là pour un banquet bénéfice.
Il y a de la cravate et du soulier en cuir au pied carré.
Oui, monsieur. Et ça, c'est une tradition du Salon de l'Auto de Montréal depuis longtemps. Et il faut que je mentionne qu'à chaque midi, on nous sert depuis 20 ans le même lunch.
Ouais.
Donc, une sandwich avec un pain aussi dur que le comptoir devant lequel je me trouve lorsque je vous parle en ce moment.
Une pomme cueillie l'automne précédent.
Une pomme, un petit carré aux dates, un petit fromage Black Diamond dans un plastique. On a le droit à une liqueur en canette.
Oui, juste une.
Et ça, c'est le lunch depuis 20 ans. Et c'est pas qu'on s'en plaint.
Servi dans une boîte de plastique non recyclable.
Non, mais... Et c'est pas qu'on s'en plaint, mais c'est vraiment le jour jour de la marmotte. On sait tellement à quoi s'attendre quand on va au salon.
C'est prévisible. C'est prévisible.
Et je te dirais que même si on en rit énormément...
Ben, cette année, il y a un vide énorme.
Ça nous manque. Alors, on est déçus de ne pas pouvoir y assister.
Et ça, c'est la journée média, mais il y a tout un salon qui se déroule après ça où on participe, ben, notamment au kiosque du guide de l'auto.
Moi,
je donne un bon coup de main à l'entreprise familiale. Donc, c'est vraiment une belle manière de débuter l'année. Et bien là, on fait ça différemment.
On fait ça différemment. Alors, la grande question, est-ce qu'il y aura un salon d'auto de Montréal en janvier 2022? Parce que, on le disait un peu plus tôt dans l'émission, je pense que l'avenir des salons automobiles tels qu'on les a connus est en partie compromis. Et j'ai bien hâte de voir comment l'organisation du salon va travailler afin de ramener l'intérêt pour un salon comme celui-là. Germain, que devra faire le salon en 2022? Se réinventer.
Se réinventer, parce que tout doit se réinventer.
Exactement. Alors sur ce, bonne semaine et bon non-salon de l'Auto de Montréal qu'on verra peut-être l'année prochaine.
À la semaine prochaine, Antoine.